La tuerie de Saint-Andéol, épisode 2. Qui a tué la famille Bébien et mis le feu au pavillon? Et pourquoi? Cette question est dans tous les esprits. À Saint-Andéol, le château, et à Givors, où Samantha, la seule survivante de la fratrie, habite avec son mari et ses enfants, eh bien tous sont sous le choc. Et que fait le Kidam pour exorciser? Eh bien il parle. Il cancane et les rumeurs se répandent. Pas simple pour les gendarmes chargés de l'enquête de démêler le vrai du faux. Ils épluchent tout, vérifient tout, parce que, au final, il va bien falloir répondre à cette question. Qui a tué cette famille? Qui a mis le feu à leur pavillon? Et pour quelle raison? Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Depuis 3 ans, la famille Bébien s'est pris de passion pour la Tunisie. Ils y vont très régulièrement. Pour les vacances de Pâques, quelques semaines avant le meurtre, ils étaient encore à Monastir. Dans cette petite ville côtière, située sur une presqu'île au sud-est du golfe d'Hammamet, les Bébien goûtent au plaisir de la Méditerranée et font connaissance avec des locaux. La preuve, Janine, employée de mairie et marraine d'Aline Bébien, la portera aux gendarmes. Au cours de l'hiver 94, elle affirme avoir établi un certificat d'hébergement pour un ami tunisien des Bébiens. La piste tunisienne se dédouble. On évoque un sac artisanal rapporté de là-bas. Il posséderait un double fond qui aurait servi à passer de la drogue. Dans les rues du Trimolin, la piste tunisienne nourrit toutes les conversations. Aucun sac artisanal n'a été retrouvé dans les décombres du pavillon. La piste tunisienne ne donne rien. En fouillant dans la vie privée de Vincent Salvatore, les gendarmes découvrent que, malgré son jeune âge, le garçon a une vie mouvementée. Le jeune homme est fan de foot. Il passe beaucoup de temps dans le virage nord des tribunes du Stade Gerland. Il ne rate aucun match de l'Olympique Lyonnais à domicile. Il appartient au plus connu des clubs de supporters, les Bad Gones, les Mauvais Gars. Les Bad Gones portent bien leur nom. Ce groupe se crée en 1987, au moment où Jean-Michel Aulas acquiert l'OL. Les Bad Gones sont considérés comme des ultras. Ils fricotent avec l'extrême droite et entonnent dans les tribunes des slogans qui échauffent les esprits. Quand ils sont dans les parages, les bagarres éclatent vite dans et en dehors du stade, comme nous le rappelle ce reportage du journal Rhône-Alpes Soir de France 3 du 2 septembre 1993.
Certains soirs de match, il y a quand même des sièges qui volent dans le virage nord, celui des Bad Gones. Mais il faut parler au passé de cette association de supporters noyautée par l'extrême droite, puisque ses dirigeants l'ont dissoute après qu'une station-service eût été partiellement dévalisée sur l'autoroute au retour du match d'Auxerre. Les supporters repentants ont même indemnisé le gérant.
La devise des Bad Gones, combattre et vaincre. Et si c'était là qu'il fallait chercher? En plus, les gendarmes l'apprennent assez vite. Vincent Salvatore vient d'être père. Séverine, une fille de son âge qu'il a fréquentée quelques mois, est tombée enceinte et vient d'accoucher d'une petite fille. Le fils Bébien et ses parents ne veulent pas en entendre parler. Damien, un ami de Vincent Salvatore et proche de la famille de Séverine, a fait l'intermédiaire entre les deux familles avant que le dialogue ne soit définitivement rompu. Le fils Bébien n'a jamais cru que cet enfant était de lui. Il ne l'a d'ailleurs pas reconnu. La famille de Séverine a prévenu. Plus de contact entre Séverine et le fils Bébien. Voilà, ça s'est terminé comme ça. Les proches de Sandrine sont auditionnés. Leur emploi du temps du 30 mai ne leur permettait pas de commettre le quadruple meurtre. Les gendarmes font chou blanc, mais ils continuent d'explorer la galaxie amicale de Bébien fils, car tous les voisins sont formels. Son meilleur ami a été vu dans le quartier le jour des faits et à plusieurs reprises. Christophe est donc le meilleur ami de Vincent Salvatore. Sylviane, la voisine directe du pavillon des Bébiens, le connaît. C'est un habitué de la maison. Quand les Bébiens partent en vacances, c'est lui qui vient nourrir Duc le chien. Il n'aboie pas quand il le voit. Il lui fait même plutôt la fête. Le 30 mai, Christophe était là. Sylviane l'a vu près des véhicules des Bébiens devant chez eux. Vendredi 2 juin, Christophe est entendu par les gendarmes. L'interrogatoire va durer 7 heures. Il raconte son emploi du temps le jour du meurtre. À 11h35, il a terminé ses cours et quitté son établissement vers 12h10. Il a fait du stop jusqu'à Saint-Andéol-le-Château, où il habite. L'après-midi, Christophe n'est pas retourné en cours. Il a décidé de sécher. Il devait voir Vincent Salvatore. Tous deux devaient aller à Mornant retrouver Maxime, un copain. À 13h30, comme convenu, Christophe était devant la maison des Bébiens. Il a attendu, appelé Vincent Salvatore. Pas de réponse. Alors il a passé le portail, il a essayé de sonner à la porte, mais en appuyant sur le bouton, il s'est rendu compte qu'elle ne marchait pas. Pas de réponse. Il a attendu là pendant une heure, écoutant de la musique adossée à la voiture de Christophe. À 14h30, il est reparti. Il a rejoint son domicile à 5 minutes à pied. En marchant, il a retenté le portable de son ami, sans réponse. À 17h15, sa mère l'a emmené à Mornant en voiture où il a retrouvé Maxime comme prévu. À 18h30, il a rappelé sa mère pour qu'elle revienne le chercher. Un emploi du temps corroboré par tous les témoignages de ses proches. Les gendarmes essayent de comprendre pourquoi Christophe n'a pas essayé de rentrer dans la maison. Pourquoi, en se rendant compte que la sonnette ne fonctionnait pas, il n'a pas donné l'alerte. Au moment où il est devant la maison des Bébiens, Aline est encore au collège. Elle aurait eu la vie sauve. Christophe est un jeune homme poli, timide. Il ne se serait jamais permis d'entrer chez les Bébiens, dit-il, sans y être invité. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Dans le village, son audition ne passe pas inaperçue. Il s'agit d'un simple interrogatoire, mais vous savez comment sont les gens. Audition, garde à vue, égale culpabilité. Ça va vite. Les gendarmes le savent, Christophe n'a ni les épaules, ni le mobile pour un meurtre. Alors un quadruple meurtre. Et surtout, il a un alibi pour chaque meurtre. Les gendarmes le ramènent chez lui, et pour faire taire la rumeur au sein du voisinage, l'inspecteur en chef se montre très prévenant. Il sort du véhicule, discute quelques minutes avec lui en bas de l'immeuble, lui met la main sur l'épaule, histoire que tout le monde voit bien que le jeune homme très éprouvé n'y est pour rien. Exit la piste Christophe. Et vous savez ce qu'on dit, quand l'enquête patine, on se demande à qui profite le crime. Alors, tout naturellement, les soupçons vont se porter sur Samantha, la seule Bébien encore en vie, et son mari, Éric Bruyas. Surtout que de ce côté, ça bouge aussi.
Le silence et le recueillement auront caractérisé cet après-midi les obsèques de Vincent, Odette, Vincent Salvatore et Aline Bébien à Saint-Andéol-le-Château. Recueillement de l'immense famille, groupée autour de leur fille aînée, désormais placée sous la protection de la gendarmerie. Recueillement des proches qui ont accompagné cette famille dans l'intimité de sa douleur. Silence de tout un village, présent devant cette petite église pour rendre hommage au voisin, à l'ami, au pote, à la copine. Tout de douleur contenue, ce silence hurlait pourtant d'incompréhension et de colère.
Juin 1995, 6 jours après le meurtre, les obsèques de la famille Bébien rassemblent tout Saint-Andéol-le-Château. Les 4 cercueils sortent de l'église dans un silence pesant et une solennité que rien ne vient troubler. Sauf, si, peut-être, oui, il y a bien quelque chose. On aurait pu ne rien vous dire tant ça paraît dérisoire. Mais à l'époque, en 1995, dans ce petit village, ça fait jaser. Samantha Bébien, la fille aînée du couple assassiné. Eh bien, elle est venue à l'enterrement de toute sa famille en mini-jupe noire, avec des talons hauts. Et ici, eh bien ça ne passe pas, la mini-jupe. Rendez-vous compte. Et puis, entre le meurtre et les obsèques, Samantha a organisé l'anniversaire de sa fille. C'était prévu, elle a maintenu la petite fête. Toute sa famille a été assassinée, et elle décide quand même de célébrer l'anniversaire de sa fille. Avec les ballons, le gâteau, les bougies, les cotillons, bref, la totale. Eh bien ça passe mal. Et puis, il y a un autre incident, toujours entre le meurtre et les obsèques. Éric Brouillasse arrive en trombe à la mairie de Saint-Andéol-le-Château. Il doit absolument parler à un agent de l'état civil. Oui, tout de suite, ça ne peut pas attendre. Il a besoin des copies des certificats de décès de ses beaux-parents, de son beau-frère et de sa belle-sœur. C'est très urgent, dit-il. Il doit récupérer les arrhes du camping réservés pour l'été prochain. À la mairie, c'est la consternation. Et je sais ce que vous vous dites, c'est gênant. Mais attention, gênant ne signifie pas suspect. Ce qui est plus suspect, en revanche, c'est que dès le lendemain de l'incendie, Éric Brouillasse contacte l'assureur de ses beaux-parents. Il veut savoir quand Samantha touchera l'assurance. Un peu surpris par la rapidité du coup de fil, l'assureur explique que c'est un gros sinistre avec une enquête. On ne va pas les payer sous 7 jours. Pour accélérer la procédure, Éric Brouillasse liste tous les biens partis en fumée dans le pavillon des Bébiens. Il énumère tout. Les meubles, les objets de décoration, les luminaires, la télévision, la vaisselle, l'électroménager, tout. Il note tout, pièce par pièce. Le salon, la chambre de ses beaux-parents, celle du beau-frère, celle d'Aline, la cuisine, l'entrée. Tout est consigné. Et quand il ne se souvient pas exactement, Éric appelle des proches et leur demande si, par hasard, il n'aurait pas des photos. Vous savez, ces clichés de réunions de famille où, en arrière-plan, on aperçoit le buffet, la télé. Voilà, il note tous les bijoux, les vêtements, les sous-vêtements, le linge de maison, la taille, la marque, le prix. Pendant des heures, sur l'ordinateur, il tape des listes. Il fait des dessins de chaque pièce avec des numéros comme pour un constat d'accident de la route. Ça lui prend des heures. Quand les assureurs reçoivent le couple, avec leur dossier d'une dizaine de pages sous le bras, eh bien, ils n'ont jamais vu ça. Quelques jours après les obsèques, l'assureur boucle son estimation. Il y en a pour 700 000 francs. Voilà, Samantha, seule héritière de ses parents, va toucher 700 000 francs, soit environ 106 000 euros. Les gendarmes cherchaient un mobile, ils en ont un et de taille. Le 14 juin, les enquêteurs se rendent au domicile des Brouillasse à Givors. Le couple est embarqué et placé en garde à vue. Une garde à vue qui ne va pas du tout se passer comme prévu. C'est ce que je vous raconterai dans le troisième épisode de cette série. En attendant, vous pouvez nous laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.